Françoise Lorserie, donc, qui est chercheure au CNRS, à Aix-Marseille Université, à l'IREMAM, Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabo-Musulman. Voilà. Juste la présentation formelle.
Et bien complice de Fabrice, qui va m'aider à garder le temps, parce que ma montre, mais je ne pense pas que ce soit symbolique, en fait, c'est cassé cette nuit et ne marche pas. Donc, j'ai changé un peu mon titre par rapport à celui que j'avais proposé précédemment, en voyant que c'était difficile de respecter le titre que j'avais proposé. Donc, des principaux valeurs, ça reste. L'éducation scolaire en France au prisme d'une approche intersectionnelle. Ça va être général, ça va être synthétique. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, je suis sûre que je vais en dire, parce que quand on simplifie, on grossit les choses et on fausse en fait la réalité. Mais ce que je voudrais en fait, c'est vous associer à une recherche que j'ai essayé de faire ces derniers temps pour connecter les logiques micro que l'on observe sur le terrain à des logiques plus macro, en suivant en cela l'exemple que nous a donné Philomena Essed dans son livre sur le racisme au quotidien. Et en montrant qu'en fait, on n'interprète pas, on ne peut pas interpréter et comprendre les choses qui se passent sous nos yeux si on ne les met pas en prise, en articulation avec une pensée plus théorisante et plus macro qui finalement permet de les faire parler. Alors, c'est un petit peu cette idée que j'ai voulu défendre ici, et je vais le faire donc très rapidement. Pour ouvrir la discussion, pour ouvrir l'échange, donc sur les 45 minutes de cette plage de temps, je vais en prendre 30 minutes ou 35, et puis on pourra discuter longuement, j'espère, des questions posées. Alors, l'introduction, c'est que notre école, on l'a dit largement ce matin, est antiraciste, comme celle de l'ensemble des démocraties contemporaine, et elle souscrit au principe d'universalisme, elle s'intéresse à tous les élèves peuvent prétendre être membres de l'espace scolaire, de la communauté scolaire, même en France, les élèves qui n'ont pas la nationalité française, c'est bien connu. Cependant, comme également les autres démocraties nos voisines, notre société s'est profondément transformée après la Seconde Guerre mondiale, avec des flux migratoires très importants. La situation actuelle de globalisation du monde contribue bien évidemment à accroître cette transformation. Et un peu partout, je prends le mot à une étude que j'ai découverte récemment, en fait, que je n'avais pas vu passer, de Schiffauer et d'autres gens, en 2004, qui comparait les écoles en Grande-Bretagne, Allemagne, Hollande et France. L'école nationale s'est partout transformée et devenue partout post-nationaliste, comme ils disent. C'est-à-dire le changement qu'on a vu en France, avec un effort pour adapter en particulier le programme d'histoire, parfois le programme de lettres, certaines activités, ça s'est passé partout. L'école nationale est devenue post-nationaliste, mais elle reste nationale. C'est-à-dire qu'on est là devant une tension d'une école qui se reconnaît encore comme une école chez nous hexagonale, mais qui est également inclusive, et on a parlé ce matin des tensions que ça représente. L'État reconnaît maintenant, donc vous le savez en France depuis 1998, l'existence de discriminations raciales, ethniques et autres qu'il faut combattre. Ce fait, et c'est là qu'on arrive à la question de la théorisation et des explications, renvoie à une structure globale des rapports sociaux. On pose parfois mal la question en disant « l'école est-elle raciste ?» Je pense que poser la question comme ça, c'est vraiment se rendre dans l'impossibilité de la traiter. L'école en elle-même, on va voir comment elle fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fonctionne dans une société dans laquelle la catégorisation ethno-raciale, entre autres, et sociale, socio-ethno-raciale, puis sexiste aussi, est saillante. Elle l'est, puisque l'État s'est vu obligé de reconnaître qu'il y a des discriminations, qu'il faut lutter contre et les sanctionner, les pénaliser. Donc, De cela, on ne peut pas douter. Il y a bel et bien du racisme et de la discrimination en France, même si, on l'a dit ce matin, racisme et discrimination, ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, les préjugés à la base du racisme sont bien ceux qui, dans la plupart des cas, produisent les discriminations. Comment l'école, dans une société plongée, dans une société dans laquelle existent les préjugés, dans laquelle il y a des discriminations, dans laquelle il y a du racisme, comment l'école réagit, comment est-elle d'une certaine façon poreuse à ce phénomène-là, et qu'est-ce qu'elle peut en faire, c'est ça la question. Voilà mon résumé. Longtemps, je pense que ça se lit, oui ça se lit, longtemps les données disponibles pour la France ont manqué de clarté à cet égard, elles étaient lacunaires et surtout on ne mobilisait pas un cadre théorique capable de les faire parler. C'est ça mon premier point, assez rapide. Le paysage s'est précisé au cours des années 2000 avec le progrès des recherches et, l'approfondissement de la réflexion. Nous soutiendrons l'idée que l'approche en termes d'intersectionnalité permet de saisir les logiques d'ensemble qui sous-tendent l'activité de la catégorisation ethno-raciale dans les rapports scolaires, à condition de spécifier correctement cette approche pour les relations scolaires. Ça, c'est un petit peu le point que j'apporterai aujourd'hui. Cette approche éclaire aussi le chemin d'une réponse qui ne passe pas par la culture, ni par l'interculturel, ni par le rappel au principe. Pour lutter contre la catégorisation ethno-raciale, essayer de la déconstruire à l'école, ce n'est pas par la mise en place de projets, on l'a vu tout de suite, culturel, ni par l'interculturel non plus, sans doute, sauf à réinterpréter l'interculturel, que ça passe. Mais par la mise en œuvre de ce que je propose d'appeler, à la suite de Véronique de Ruder, Christian Poiret et puis François Bourges, en 2000, sur l'inégalité raciste, un livre qui a initié beaucoup de recherches, un universalisme en acte, dont plusieurs philosophes majeurs, pour notre propos, affirment l'importance anthropologique aujourd'hui, avec tout un ensemble de travaux autour de la reconnaissance. Recognition en anglais, reconnaissance en français, mais dans une partie seulement des sens de reconnaissance en français, on y reviendra. Alors, le premier point, donc, pendant longtemps, on s'est dit finalement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat peut-être sur ces questions, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on questionnait l'inégalité possible de l'école par rapport aux élèves issus de l'immigration? Est-ce qu'elle est là encore, je ne sais pas, Nassira, pour entendre issue de l'immigration, elle n'est plus là, bon, je peux le dire. Donc l'immigré ou issue de l'immigration, au sens statistique du terme, c'est-à-dire immigré, né, étranger à l'étranger, issue de l'immigration, comme l'utilise l'INSEE, l'INED, etc., ben, enfant d'immigrés. La catégorie immigrée a été récente en France et avant qu'elle ne soit mobilisée dans des travaux publics sur la question, finalement, on n'était pas en état de positionner les élèves enfants d'immigrés, donc nés en France, souvent détenant la nationalité française, par rapport à leur père natif. La première recherche d'ampleur date de 1996, publiée en 1996, donc par des chercheurs appartenant au ministère, à la DEP, les élèves étrangers ou issus de l'immigration dans l'école et le collège français, une étude d'ensemble. Vous savez sans doute, vous souvenez sans doute des résultats. Peu on observe, quand ils regardaient la scolarité au collège, ils voyaient qu'elle commençait avec un peu de retard, les élèves issus de l'immigration. Je parle des élèves là, cette fois-ci, issus de l'immigration en particulier, avaient un peu de retard à l'issue de leur école primaire, signe de difficulté dans l'école élémentaire pour commencer la scolarité. Cette difficulté particulière avait l'air de se compenser au collège. Et finalement, quand on regardait les orientations post-troisième, parce que ce dossier-là portait sur cette question, les orientations post-troisième, on ne voyait pas de handicap, on ne voyait pas de pénalisation particulière des élèves issus de l'immigration par rapport à leurs pairs, voire un avantage, en ce sens qu'ils allaient plutôt moins souvent que leurs pairs en contrôlant leur position sociale dans l'enseignement professionnel, et même aussi moins souvent, ils décrochaient. Ces résultats ont été confirmés, toujours, ultérieurement, et Jean-Luc est là pour le dire. Hein, il a travaillé avec Gaël Grunbaum et Laure Mauguerou sur les données de trajectoire et origine, la grande enquête passée par l'INED l'INSEE en 2008, et il confirme également cette question sur non seulement le niveau du post-troisième, mais aussi le niveau baccalauréat, c'est constant. Cependant, on voyait dès cette époque un sentiment d'injustice significativement plus élevé dans cette population, qui s'est vérifié depuis à plusieurs reprises. Et l'explication proposée par Valécaille à ce moment-là, c'était de dire, par Caille en particulier, de dire, mais ces familles, si ces élèves sont plus souvent orientés au lycée, moins souvent au lycée professionnel, c'est que c'est à cause de la demande des familles. Les familles forment des vœux plus ambitieux à un niveau comparable et demandent avec plus d'acharnement à passer au lycée général et technologique, et ce qui fait qu'ils finissent par y passer. Pourquoi font-ils ces vœux plus ambitieux? À cause de leur projet migratoire. C'est donc un élément de la culture des familles qui était proposé comme explication. En fait, on peut aller plus loin dans l'explication, voir les choses d'une façon un peu plus complexe si on utilise une approche intersectionnelle. Si on regarde avec une approche intersectionnelle la question de l'inégalité scolaire des enfants d'immigrés. Je vous propose dans cette diapo la définition d'Isabelle Claire qu'elle donne dans sa sociologie du genre. Qu'est-ce que c'est qu'une approche intersectionnelle? Il s'agit des imbrications complexes, dans lesquelles les différents rapports hiérarchiques qu'on connaît dans notre société prennent forme. Il s'agit donc de sortir d'une pensée qui additionne les rapports hiérarchiques, par exemple femmes, noires, appartenant aux classes populaires, pour mettre l'accent sur l'articulation complexe des expériences minoritaires ou des rapports sociaux. Bon, c'est difficile, évidemment, à opérationnaliser, mais on peut essayer. En précisant que, s'agissant d'écoles, il m'a semblé, à la lecture des données, qu'il fallait ajouter une dimension aux trois dimensions classiques, race, classe, sexe, la dimension que je propose d'appeler valeur scolaire. J'aurais bien pu appeler mérite estimé, mais le mérite en français est tellement chargé, le mot est tellement chargé, après les travaux qui ont été faits sur le mérite, à mon avis, avec beaucoup de... Enfin, à certains contresens, à mon avis. Donc j'ai préféré dire valeur scolaire, en définissant valeur scolaire comme l'estimation sociale de la valeur de l'élève par les professeurs, mais aussi éventuellement par d'autres acteurs sociaux. Bon. Soit une quadruple articulation, classe, genre, race, valeur scolaire. Avec cet outil assez compliqué à manipuler, cette approche l'intersectionnalité permet de dégager, je crois, à propos dans les données françaises, trois types de régularité qui valent la peine d'être soulignés. Première chose dont l'évidence est maintenant ressortie, mais elle a mis du temps à ressortir, et ça c'est quand même assez paradoxal, les parcours ne sont pas les niveaux et il y a une ségrégation ethnique entre les établissements. Les parcours ne sont pas les niveaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant longtemps, on a dit les parcours des élèves, et on le dit encore, les parcours des élèves sont les mêmes, sont comparables. Mais deuxième point qu'on oubliait de dire, les niveaux ne sont pas les mêmes, sont très déséquilibrés, très inégaux. Et c'est les enquêtes PISA, qui sont maintenant corroborées par des travaux propres de l'ADEP, qui disent, oui, les niveaux sont décrochés. Les enfants d'immigrés n'ont pas les mêmes niveaux lorsqu'on les mesure à 15 ans que les enfants natifs de même catégorie sociale. Comment c'est possible, ça, que les parcours soient les mêmes et les niveaux pas les mêmes? Bon, quand on connaît le système français, on a la réponse tout de suite. Dès qu'on pose la question, on se dit, ben, mon Dieu, c'est bien sûr. Ils ne travaillent pas dans les mêmes établissements, ne sont pas dans les mêmes établissements. Et on pose la question aux données, le système scolaire est-il ségrégué sur une base ethnique? La réponse est oui. Et là, on a maintenant un travail vraiment intéressant de Lee et Rigert qui a été publié dans le cadre des études commanditées par Nathalie Mons et l'ESCO, dans le cadre du programme sur mixité sociale et ethnique de l'école française. Est-ce que l'école accroît les inégalités, comme elle l'avait dit, d'une façon un peu coquine. L'étude de Lee et Rigat porte sur calcul la ségrégation entre les établissements en France et la ségrégation au sein des établissements. Et il montre comment la ségrégation totale du système donc, est la somme des deux. La ségrégation entre les établissements est forte et elle est à base ethnique, principalement. C'est une conclusion très importante. Évidemment, il y a un corrélat pédagogique de cette ségrégation entre les établissements et du fait que certains établissements se retrouvent avec une population réputée difficile, en tout cas, bon, la difficulté étant en l'occurrence une attribution hein, qui se joue en situation, dans l'interaction. Corrélat pédagogique, dégradation de la relation pédagogique, si vous voulez, on y reviendra tout à l'heure. Dans la discussion. Deuxième régularité qui ressort de nos données, les garçons sont de ces populations racisées, ceux d'entre eux qui sont sous-réussissants, il y en a une bonne pelletée, sont exposés beaucoup plus que les autres à la déviance et aux sanctions. Ça aussi c'est quelque chose qu'on savait, mais si on met ensemble les trois sources que je vous ai mises en gras là, les travaux précurseurs hein, de De Barbieux sur la violence à l'école, où il montrait qu'il y avait un recouvrement des courbes de le taux d'immigrés dans les collèges et taux de violence enregistrée. Ça, c'était quand même assez frappant. Grimaud, Le Prince et Merle, eux, disent, ils étudient les sanctions au collège et ils s'interrogent sur ce qui les détermine. Ils prennent en charge l'origine sociale, l'origine ethnique, et le dossier scolaire. Et finalement, toute chose comparée, ils disent, eh ben, c'est pas l'origine qui compte, c'est le dossier scolaire. Elie Rigert qui dit, ben, pour ce qui concerne la mixité au sein des établissements, la mixité au sein des établissements, elle n'est pas à base ethnique, elle est à base niveau scolaire, académique. Conclusion. Si on met les trois, il faut mettre les trois enquêtes en perspective. Pour se rendre compte donc, que le système scolaire dans son ensemble est ségrégatif sur une base socio-ethnique, au sein des établissements, il y a des établissements dans lesquels sont concentrées les populations racisées. Ces établissements-là ne pratiquent pas une ségrégation à base ethnique entre leurs classes. La ségrégation qu'ils pratiquent, elle est à base académique, mais cela concentre dans certaines classes de ces établissements-là des élèves en difficulté, ce sont souvent des garçons, ils sont en bonne partie d'origine immigrée. Ça nous fait par conséquent mettre en perspective l'étude de Le Prince, de Grimaud, Le Prince et Merle. Bien sûr, si on se contente de regarder ces cas-là dans ces établissements-là, ben oui, la discrimination, la différence n'est pas expliquée par le critère ethnique. Mais tout dans tout, en articulation, ce que nous permet l'intersectionnalité, ben oui, ça l'est. Le critère ethnique joue en relation avec le critère social, le critère genre et le critère niveau scolaire. Et troisième point, bon, on va aller rapidement là-dessus parce qu'on le connaît depuis longtemps. Et il faut saluer là, l'étude de Nassira, son étude de thèse hein, qui avait été très remarquée en 2000, Déberette aux descendantes d'immigrants nord-africains, les filles de milieux musulmans sont poussées. Là encore, c'est quelque chose, ce favoritisme à l'égard des filles de milieu musulman, il est bien connu dans les études qualitatives, il se voit très bien aussi dans les études pardon, statistiques. On a quelques études à la fois statistiques et qualitatives, dont celle de Philippe Perrault qui nous montre ça à l'œuvre en observant des conseils de classe. Il faut remarquer que le corrélat de cette situation relativement plus favorable qu'attendue, c'est l'altérisation du milieu familial. Si on pousse les filles, c'est parce qu'il faut qu'elles échappent à leur milieu familial, il faut les aider à sortir de l'emprise de leurs frères et de leurs pères. On a toute une série d'enquêtes sociologiques. Une fois qu'on a mis en place, vous voyez, cette grille de lecture, jouant sur une intersectionnalité un peu plus compliquée, avec la valeur scolaire, on a toute une série d'études qui vont aller à l'appui de ça et qui vont s'éclairer. Et j'en cite trois, là, la thèse de Marie Verhoeven, qui est déjà ancienne, qui est assez remarquable parce qu'elle a joué précisément sur le contraste entre des établissements de niveau de positionnement sur le quasi-marché scolaire différenciés. Elle a comparé deux établissements en Grande-Bretagne et deux établissements, Birmingham, je crois, et deux établissements à Bruxelles, l'un bien placé sur le marché scolaire et l'autre pas bien. Et elle montre comment les conditions dans lesquelles les élèves construisent leurs identités ethniques et la façon dont ils les vivent est complètement bien contrastée à chaque fois. Ça met en valeur la question de la positionnement scolaire. La thèse de Sylvie Hérald est connue aussi. Je voulais vous citer aussi un autre texte qui n'a pas été très bien valorisé, j'ai l'impression. C'est l'étude de Patricia Mercadet, je vais vous dire plus précisément, Patricia Mercadet, Léchenet, Durif Farimbou et Garcia, qui s'appelle « Mixité et violence ordinaire au collège et au lycée » et c'est paru en 2016 chez RS. C'est un texte très intéressant, interdisciplinaire, ça qui est très intéressant. Un psychanalyste intervient. Il y a aussi des psychologues, sociologues et anthropologues qui, ensemble, font une observation très fine de collège et de lycée pour voir la sexualisation de la violence. Et là encore, évidemment, on retrouve ce que l'on vient de dire. Alors, j'en arrive à ma dernière partie. Ça va, on est là. Bon. On a là, donc, on vient de voir sur ces données-là que là, effectivement, sans poser la question de l'école raciste, école non raciste ou quoi, on voit bien que la catégorisation ethno-raciale trouve de l'espace pour s'exprimer dans l'école. Quels en sont les acteurs et qu'est-ce qu'ils font pour, on ne l'a pas analysé comme ça, mais on voit bien que c'est là. Et on a des soupçons que ça passe par le rapport pédagogique et que ça se traduit dans du rapport pédagogique, même si le rapport pédagogique, c'est bien entendu, n'est pas à l'origine de cela, ou pas toujours, ou pas que, hein, mais il est dedans, il est impliqué. La question de s'attaquer à la catégorisation ethno-raciale, alors, se pose, ça rentre dans l'émission de l'école, indubitablement, puisqu'elle est mandatée pour produire de la justice dans une société démocratique. Il n'est pas douteux que l'école soit sollicitée sur cette question, ou puisse se sentir sollicitée. En France, on a effectivement un dossier qui est publicisé avec plus ou moins à certains moments, la question de la ségrégation entre les établissements. Et Najat Vallaud-Belkacem avait lancé l'idée qu'il fallait des expérimentations qui se déroulent dans les terrains, localement, sur cette question-là, pour déségréguer ou pour endiguer des logiques de ségrégation qui étaient à l'œuvre localement sur le terrain. Les expérimentations qui ont été mises en place ont donné des fruits qui ne sont pas encore publics, ont donné des fruits ou plus ou moins. Mais en tout cas, la question de la mixité est une question qui bénéficie d'une certaine publicité. Il va de soi qu'elle échappe en partie à la compétence de l'école toute seule, qu'elle demande pour être gérée vraiment des partenariats appuyés localement, pas sur des associations, mais aussi sur les collectivités territoriales, puisque entre en ligne de compte la sectorisation des établissements, les transports qui puissent amener des élèves venant de divers quartiers de la ville dans un établissement, etc. Toute une série de questions qui débordent l'école. Même si la capacité des équipes à se mobiliser pour prendre au sérieux, gérer l'hétérogénéité sociale qui est encouragée ainsi, ça reste un facteur essentiel, évidemment. Mais si on se contente de travailler sur la discrimination telle qu'on peut l'appréhender au quotidien. La réponse du ministère, vous le savez, ça a été de privilégier l'égalité entre les filles et les garçons. Et puis la deuxième réponse a été la laïcité. Prenons les deux l'une à la suite de l'autre. L'égalité filles-garçons, on sait que c'est effectivement un objectif tout à fait important, que c'est vrai que les garçons ont des tas de préjugés, et je m'en suis aperçue sur mes propres petits-enfants, c'est incroyable comme c'est tôt, et ça se décline en préjugés moins à l'encontre des filles que quant à eux, quant à leur masculinité, quant à ce qu'ils ne peuvent pas faire étant donné qu'ils sont des garçons. C'est donc très précoce qu'on peut travailler sur les préjugés de la différence fille-garçon et sur ce que ça suppose comme rôle sexué pour les filles et pour les garçons, c'est certain. D'un autre côté, on sait bien aussi que travailler sur l'égalité fille-garçon en insistant sur cette question dans certains contextes, pour ne pas les nommer les contextes musulmans, ça revient à pointer du doigt le milieu familial et les grands frères comme étant les auteurs, finalement, des dérives sexistes, donc, comme l'a dit Christelle Hamel, à racialiser le sexisme. Le sexisme, ça serait un attribut bien particulier des milieux musulmans, et du coup, à développer dans les établissements, même dès les écoles, des activités qui sont ressenties très tôt par les élèves comme les désignants. Comme problématique, et désignant leur famille comme problématique. L'égalité filles-garçons, donc, si on en travaille de façon naïve et sans avoir une vigilance du côté de l'intersectionnalité, ça peut produire des dérives, et même ça ouvre de nouveaux champs à la catégorisation ethnique. La laïcité, c'est pareil. C'est un principe fondamental de nos institutions. Depuis Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu véritablement un travail intéressant fait pour faire comprendre aux acteurs scolaires, aux agents scolaires, aux professionnels, que la laïcité, ça n'est pas un ensemble d'interdictions, mais c'est un ensemble de droits et de libertés qui sont ouverts aux membres de la société. Les contraintes dans le système de la laïcité, les contraintes sont du côté de l'État, qui doit garder sa neutralité pour permettre aux individus, aux membres, y compris aux élèves, d'avoir leur liberté. Alors, la loi de 2004, dont certains ont questionné la légalité, et en tout cas le fait qu'elle soit conforme à l'esprit de la laïcité, en tout cas cette loi, elle est passée, et elle interdit aux élèves de porter des signes, des vêtements, comment on dit, des vêtements et des tenues, manifestant ostensiblement leur appartenance religieuse. Mais il ne leur est pas interdit, bien sûr, d'avoir des expressions de leurs appartenances. Et même, donc, avec Najat Vallaud-Belkacem, il y a eu tout un travail de formation auprès des agents scolaires pour qu'ils soient à même de faire parler, de laisser parler et de réguler des échanges autour de ces questions. Mais, dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les établissements? Pas forcément exactement ce que je viens de dire. Tout ce qu'on sait qui remonte des exercices autour de la laïcité, c'est plutôt des exercices qui s'appuient sur la charte de la laïcité, la charte qui est un outil très normatif, assez, qui mériterait d'être critiqué avant d'être utilisé. Et par conséquent, les activités au titre de la laïcité ne sont pas forcément des activités qui vont déconstruire la catégorisation ethno-raciale, et encore une fois, au contraire, peut-être même vont-elles donner un nouveau champ à cette catégorisation ethno-raciale. Et voilà, ma dernière diapo. La réponse, à mon avis, et c'est ce que je voudrais mettre en question pour terminer, ça serait de s'interroger sur la possibilité d'un universalisme en acte à l'école. C'est sur cette idée que Véronique de Ruder, avec l'équipe qui travaillait sur l'inégalité raciste, terminait le livre en 2000. Un universalisme en acte dans les entreprises, dans les diverses institutions et, bien entendu, pourquoi pas, à l'école. Ce matin, Philomena Essed nous parlait de l'unicité, l'uniqueness des individus, leur singularité. Je pense qu'effectivement, la décatégorisation, la déconstruction de la catégorisation dans un contexte comme l'école implique de valoriser la singularité de chacun. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça impose de privilégier dans les activités que l'on conduit la méthode sur le contenu. Et la méthode, c'est donner la parole, écouter et faire en sorte que la parole circule et que l'écoute circule aussi. Elle circule entre les élèves et l'écoute circulera aussi des élèves à l'enseignant dans cette démarche-là. C'est très important parce que jamais l'enseignant, tout occupé qu'il est à enseigner, en France en tout cas, n'a beaucoup de loisirs pour entendre ce que peuvent dire ses élèves. Et quand ils l'entendent, moi il m'est arrivé dans un temps antérieur de faire de la formation et je demande de faire parler des élèves devant les enseignants. Et les enseignants sont enfin bluffés par ce que peuvent dire les élèves, par leur capacité d'analyse. Et donc moi je suis vraiment très persuadée que si cette démarche de donner la parole aux élèves et de les faire discuter sur différents sujets qui les intéressent, est mise en place, je suis vraiment persuadée que cela fera du bien à tout le monde. Il se trouve que nous avons une ressource étonnante qui a été mise en place, un peu subrepticement, mais elle est là, elle est attaquée évidemment, mais elle est là quand même, c'est l'enseignement moral et civique, avec ses premières préconisations qui datent de 2015. Vous savez qu'elles ont déjà été attaquées par la nouvelle circulaire qui date de juillet 2016. Mais il reste encore des choses à prendre, et en particulier l'idée que la méthode doit être mise en premier, et que cette méthode, c'est le débat. Et le débat ouvert, c'est-à-dire sans solution. Le débat qui ne va pas déboucher sur une conclusion tirée par le professeur qui mettra une trace écrite dans les cahiers. Parce que c'est un débat pour lequel il n'y a pas de bonne solution, où simplement doit circuler l'argument, les échanges, de sorte que chacun, finalement, trouve à être reconnu. Et je termine sur cette idée de reconnaissance. À mon avis, c'est une clé pour obtenir la reconnaissance interpersonnelle. Donc, toute une série de textes dont je vous donne rapidement là quelques références disent à quel point c'est une clé de la justice de nos sociétés contemporaines. Contre la misrecognition, on n'a pas en français la bonne traduction de misrecognition. Alors c'est un néologisme en anglais aussi, mais vous savez, mal reconnaissance, c'est un peu mépris, mais c'est pas si fort que mépris, c'est moins précis que mépris. Et non reconnaissance, c'est pareil, c'est contradictoire avec reconnaissance, c'est pas ça. Misrecognition, c'est de travers, c'est la reconnaissance de travers. Il faut faire attention, je crois, à Charles Taylor, qui a été assez connu, je regarde Marie, parce que c'est un des maîtres à penser de la philosophie politique québécoise. Avec sa politique de la reconnaissance, il nous mène sur une fausse piste. La reconnaissance dont il s'agit, c'est une reconnaissance interpersonnelle, interindividuelle, et c'est celle qui est, disons, qui dérive de la pensée du jeune Hegel, telle qu'elle est relue par Honneth dans son livre sur la lutte pour la reconnaissance. Et vous savez que Nancy Fraser s'en est inspirée pour compléter son analyse marxiste de la justice sociale, en termes de redistribution, par une analyse de la reconnaissance. Et j'ai mis ce texte, alors il est en anglais, Redistribution or Recognition, un dialogue entre Fraser et Honneth pour savoir si on peut subsumer sous reconnaissance l'idée d'équité de distribution ou bien s'il faut les maintenir tous les deux. Au niveau de notre discussion, ça n'est pas très important, mais c'est intéressant dans la perspective d'une philosophie politique de nos institutions. Je cite aussi Joël Zask qui propose un travail intéressant sur le bénéfice de la reconnaissance. Joël Zask parle de parité de contribution. Fraser parle de parité de participation, Honneth de dignité, d'assurer la dignité et l'estime à chacun et par la reconnaissance. Toutes ces questions-là nous concernent éminemment quand on a une perspective pédagogique et qu'on est soucieux de déconstruire la catégorisation ethno-raciale à l'école. Merci.
On va ouvrir quelques échanges, discussions. Chloé, c'est toi la gardienne du temps, tu nous dis, tu nous fais signe. Voilà, qui aurait des interventions.
Je pense que ça marche un petit peu. Oui, donc je vais simplement un petit peu rebondir sur la fin et aller après remonter en arrière, mais très rapidement. Je vais sur la notion de reconnaissance et la référence à Honnête. J'ai trouvé votre propos un peu prescriptif, un petit peu à la fin. Donc ça m'a un petit peu chagriné. Mais ce n'est pas l'essentiel. Autour de la reconnaissance, sur reprendre Honnête, et que j'avais écrit, moi, mon HDR, elle était sur la lutte inégale pour la reconnaissance. La lutte inégale pour la reconnaissance. Il y a ça presque 15 ans. J'avais insisté sur la question de l'importance de regarder les rapports sociaux, comme vous le faites. Et que nécessairement, il y a des positions inégales, puisque les rapports sociaux, quand on rentre dans cette perspective-là, il y a bien une lutte de position entre les dominés et les dominants, que ce soit dans le rapport de genre, que ce soit dans le rapport ethno-racial, que ce soit dans le rapport de classe, ou dans le rapport de transmission, que vous avez appelé peut-être derrière ce que vous mettiez valeur éducative. Enfin, derrière ça, j'ai entendu le rapport de transmission entre aînés cadets, qu'on peut voir par ailleurs. Alors, ma question, c'est. Peut-on réfléchir sur cette question des pratiques éducatives sans, comme vous le faites, le réintégrer dans cette dynamique des rapports sociaux, mais peut-on penser à la notion de rapport social sans, dans le même temps, penser à la question de l'imaginaire collectif d'appartenance qui peut être présent dans ces fameuses luttes au sein des différents rapports sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une production, à travers ces rapports sociaux, d'un imaginaire collectif d'appartenance, je reprends un peu ce que dit Godelier, hein, d'une certaine manière, hein, un imaginaire idéal, hein, qui se prend corps par des pratiques qui symbolisent cet imaginaire, et de fait, les positions dominantes vont produire un imaginaire d'une société qui va se retraduire dans le cadre méso, dans les organisations, dans les pratiques, et au plus près, ce qu'on a vu depuis ce matin, dans le face-à-face entre enseignants, enseignés, et qui va produire donc tout ce jeu-là. Et j'entends aussi que dans cette question de la production d'un imaginaire d'appartenance, il y a des luttes. Bien sûr, au sein même des classes dominantes, il y a bien sûr ceux qui sont attachés au principe universaliste, mais à l'intérieur des classes dominantes, et c'est peut-être eux qui ont le pouvoir, il y a peut-être d'autres personnes qui sont moins attachées au principe universaliste parce qu'ils sont aussi pris dans la complexité de ces rapports sociaux au niveau international. Et donc il y a une sorte d'ambiguïté entre les principes et les pratiques. Et donc, les classes dominantes peuvent être, avec des imaginaires d'appartenance différenciés, et il peut y avoir des luttes d'imposition, et dans lesquelles j'entends ici, par votre propos prescriptif, d'une certaine manière, une façon de dire luttons pour, hein, et j'entends, on est dans la société qu'on étudie, donc c'est toute la complexité, mais dans les positions dominées, il y a aussi des imaginaires d'appartenance qui sont là aussi multiples et qui sont aussi en tension. Et je pense que cette dimension-là dans les rapports sociaux n'est pas prise en compte, me semble-t-il. Pourquoi ? Je l'interroge, c'est la question que je vous pose.
C'est une question intéressante parce que, bien sûr, toutes les questions sont intéressantes, mais votre question me permet de préciser un point sur lequel je n'avais pas insisté. C'est que l'école, à mon avis, forme un espace d'éthique de la discussion à la Habermas. C'est-à-dire que l'éthique de la discussion, telle qu'Habermas l'expose, on se dit, mais où est-ce que ça peut se passer ? Ça ne se passe pas dans les chambres des députés. Hein, ce qu'il n'y a pas d'éthique de la discussion dans une chambre des députés, on met en spectacle sa position, etc. Je veux dire, dans l'école, c'est un bon lieu. Quand on voit des débats qui se déroulent en classe, c'est ça. Chacun sait le rôle qu'il doit tenir pour prendre la parole, demander la parole, la prendre, etc. La laisser en cycle suivant. On est là dans un cadre régulé suffisamment où les appartenances sociales sont présentes, mais suffisamment tenues sous contrôle, je dirais, suffisamment exprimer d'une façon paisible pour qu'on puisse en parler. Les imaginaires collectifs d'appartenance, ils ont toute leur place dans un débat. Ils sont faits pour un débat qui sera philosophique ou social ou selon le programme d'IMC, puisqu'il y a un programme riche sur l'IMC, il permet beaucoup de choses et il permet à des élèves de dire leurs appartenances, mais de dire aussi autre chose. C'est-à-dire que, et de mettre en, de, d'entendre la parole des autres là-dessus, puisque le jeu consiste à enchaîner les prises de parole et à argumenter en finalement en tenant en compte ce qui s'est dit précédemment. Donc je pense qu'on est là dans un cadre justement où ce genre de conflit, ce genre de tension, ce genre de pluralité peut parfaitement se dire, et c'est même le lieu où, lorsqu'on les dit, on fait sentir à quel point la catégorie qui est plaquée sur les gens est simplifiante et aliénante, et qu'elle contient de l'othering, de l'altérisation des individus. C'est très bien, je crois, je ne vois aucun problème, moi, à l'école, pour que des appartenances collectives, des imaginaires collectifs se disent. Et ils vont certainement aussi, quand on voit comment réagissent les élèves les uns par rapport aux autres, ils vont certainement être contredits en même temps que dits. Mais contredits d'une façon pacifique selon les règles du débat. Il y a toute une pédagogie du débat ouvert qui existe, dont les outils sont disponibles, même s'ils ne sont pas éventuellement beaucoup dispensés dans les ESP, néanmoins, ils existent et si on se met à les dispenser, on peut le faire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est ce que je voulais dire par rapport à votre question. Oui.
Encore une ou deux remarques. Marie, si tu permets, je relance aussi pour solliciter des gens qui n'auraient pas pris la parole également. Y a-t-il l'une ou l'autre élément de discussion, question, remarque, interpellation ?
Ça marche, d'accord. Merci pour votre intervention. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'intégration du hip-hop dans les nouvelles méthodes pédagogiques. Je pense notamment à Isaba, c'est un professeur de mathématiques qui enseigne notamment le théorème de Pythagore avec le rap. Et je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est une forme de reconnaissance ? Et donc là, on est dans la reconnaissance. Donc d'une culture populaire, est-ce que finalement cette reconnaissance-là elle permet une ouverture sur parmi les élèves, pour qu'ils discutent entre eux, pour que éventuellement ils intègrent le rap à leurs échanges, parce que j'imagine que dans les débats le niveau de langage il pose aussi question et il peut être aussi perçu comme une certaine violence. Voilà, donc voilà pour la question. Merci encore.
Alors, à mon sens, la question.
Tu veux répondre tout de suite Marie, tu avais une remarque. Si tu veux discuter avec elle au café.
Non, mais c'est important sur Charles d'ailleurs.
Il y a des choses à
repréciser.
Non, mais
c'est pour le
public,
c'est pas pour elle.
Tu
peux l'avoir, c'est vraiment pour le public que je veux parler.
Ok. On te donne la parole après.
Oui, moi aussi je voulais vous remercier pour votre intervention. Moi ce qui m'a interpellée c'est un peu c'est dans votre dernier point, votre dernière diapo, un peu sur des perspectives en fait, parce que j'ai l'impression que dans la discussion on reste trop centré sur la responsabilité individuelle là encore, alors que pour mettre en lien avec les interventions de la session juste avant, pour ce que je connais du fonctionnement de l'école et notamment de l'accueil des EANA ou toutes les catégories qui ont été données, justement c'est des catégories administratives et on aura beau faire passer des tas de choses très positives et donner des tas d'outils aux enseignants, l'institution qui classe les élèves en l'occurrence, et c'est pareil pour la formation linguistique des adultes migrants qui est plus mon domaine. Du coup, en fait, voilà, il y a toutes les belles choses et la déconstruction des préjugés et tous les outils qu'on peut avoir. Et puis, il y a la responsabilité administrative avant, quoi. Et j'ai l'impression que ça apparaissait pas en fait dans votre dans vos perspectives.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Une clarification.
Oui, que Charles Taylor n'est pas à l'origine ni de la condition québécoise, peut-être un peu de la condition canadienne. C'est
beaucoup. Je tiens à le dire parce que vraiment, Charles, et même il est considéré comme un multiculturaliste plus radical que celui du Canada. Donc, mais au Québec, je dirais que ce serait plutôt Kim Lika, et ça amène à la question de la... Et Kim Lika fait une distinction entre les droits collectifs et les droits polyethniques. Ce que tu décris dans l'intersectionnalité, ça s'appliquerait plutôt aux droits polyethniques. Mais ça serait vu par les communautés qui considèrent avoir un rapport historique différent comme une tentative de les désarmer. Bien sûr, on sait que tous les autochtones sont intersectionnels, mais tu n'irais pas dire à un autochtone, le marqueur autochtone n'est pas le principal chez toi, tu dois considérer ton marqueur de classe, etc. Parce que pour les groupes minorisés, il y a le sentiment que même la logique abermacienne, si tu veux, c'est une forme de les désarmer finalement dans une situation de pouvoir. Je crois que c'est un peu ce que monsieur voulait dire aussi. Alors, je pense qu'en lisant Kim Lika, on va avoir quelque chose de plus complexe que Taylor, mais on ouvre aussi la critique du fait que cette idée d'intersectionnalité et de personnalisation, que c'est l'individu qui porte ses marqueurs, peut être vue par certains groupes minoritaires comme étant une façon de leur demander de rendre les armes alors que la bataille n'est pas terminée.
Alors, je vais répondre à ces trois questions. Toutes trois, très... Bon, la question sur l'organisation, c'est clair que je ne l'ai pas traitée. Et amener les gens qui animent le système scolaire, les responsables, à comprendre, etc. Je pense, c'est peut-être idiot de le penser, mais je pense que si rien ne change dans les classes et dans les établissements qui affrontent les contradictions qu'ils affrontent actuellement, les responsables n'ont aucune raison d'impulser des changements. Il faut que ça panique et que ça change dans les classes pour que, au niveau des responsables, on se dise qu'il y a un problème et on va le traiter. Ou, enfin, je ne sais pas, mais la question en tout cas que j'ai traitée là, c'était simplement l'idée qu'il y a quelque chose à faire, il y a une opportunité avec l'EMC, je crois, et c'est une opportunité qui serait dommage de négliger complètement. Elle peut donner lieu à des changements réels dans les climats scolaires et dans les enjeux sociaux et politiques des activités scolaires qui quand même font souci à beaucoup de gens dans les écoles. Le hip-hop, moi, je n'ai qu'une réponse. L'important, c'est que les élèves apprennent. Donc, je sais que les profs, certains profs sont créatifs, se donnent des autorisations. J'ai une collègue dont j'ai publié dans un endroit une analyse qu'elle a faite. Elle a été amenée à démissionner de l'éducation nationale dans différents... Bon, on ne va pas revenir sur le détail, mais c'est une prof de maths aussi. Et avec une classe difficile, pour permettre à ses élèves de travailler, de faire des exercices de maths, elle les avait autorisés à mettre des écouteurs où ils écoutaient leur musique, alors que c'était interdit dans l'établissement. Et elle s'est fait attaquer par d'autres collègues, et pas soutenir, ou en tout cas pas assez soutenir à son avis, par l'administration. Mais c'est pour vous dire que je crois que ce qui compte, c'est pas la façon dont on fait apprendre les élèves, c'est que les élèves apprennent. Alors si c'est vrai qu'en faisant, le carré d'hypoténuse avec le hip-hop, ça marche mieux, pourquoi pas. L'important pour le prof, c'est d'être responsable des résultats qu'il obtient avec les élèves, c'est de les amener à faire des maths, à aimer des maths et à réussir en maths. Hein. C'est tout. C'est la seule réponse. C'est le seul cap, c'est la seule limite de la pédagogie, des inventions pédagogiques. C'est que les élèves fassent les apprentissages qu'on attend d'eux et qu'ils y prennent leurs pieds et qu'ils poursuivent. Sur ce qu'a dit Marie, bien entendu, c'était un petit clin d'œil, je n'avais pas du tout traité ni Kim Lika ni quoi. C'est parce que les questions de politique, de reconnaissance, je ne sais pas pourquoi, mais on en parle en France. Reconnaissance, claque, politique de reconnaissance. Or, l'ennui, et ça transparaît aussi dans ton propos, l'ennui, c'est que ça nous fait confondre catégorie et groupe. Un groupe, ça existe par les relations que ça tisse entre ses membres sociologiquement. Au Québec, on admet que les groupes minoritaires existent. En France, on n'admet pas que les groupes minoritaires existent, et en tout cas publiquement, on n'en fait pas des objets de politique publique. C'est les catégories qui existent, et ça, la catégorie, c'est à déconstruire. Maintenant, si le groupe, comme le disait tout à l'heure monsieur, si le groupe dit « mais moi j'existe comme vous », mais tant mieux, existez, on n'a rien à dire. Que des gens disent « moi j'ai des... j'ai des affinités, je parle à ma grand-mère de l'autre côté en Kabyle, on apprend que notre ami Emmanuel Valls parle couramment le catalan et l'espagnol et qu'il va devenir... Oh, ah bon, ben donc, ben c'est comme ça, vous êtes comme ça. Là, ça, c'est des phénomènes d'appartenance collective, on n'a rien à dire. L'éthique républicaine n'est pas hostile à ce que des groupes existent, elle est hostile à ce que des groupes envahissent l'espace de la citoyenneté. Mais ils n'envahissent pas quand ils disent on existe. Ils font éventuellement, on peut être citoyen, mais oui, en étant membre de groupe. Ça n'est pas, ça n'est pas. Et là, dans la pédagogie où, dans laquelle on est arrivé dans les écoles françaises actuellement, c'est pas du tout impossible de dire qu'on appartient à un groupe et qu'on ressent cette appartenance. C'est pas du tout impossible et c'est pas considéré comme une perversité. Donc, groupe, ça existe. Catégorie, c'est on met dans une catégorie, comme les gens qui font des statistiques mettent dans une catégorie des individus. On dit, ça sera notre catégorie. C'est un outil de gestion ou de statistique. Bon, ben, là, il faut regarder un peu plus près ce qu'on fait quand on les utilise. Et nous, en France, quand on parle de reconnaissance, on ne va pas reconnaître des groupes. Publiquement, on reconnaît des individus qui vont être, éventuellement, avec leurs appartenances, membres de groupes. Mais à condition qu'ils le disent, qu'ils l'affichent. On peut aussi être membre de groupe et pas avoir envie de l'afficher dans la classe. Si le débat porte, je ne sais pas quoi, sur les amitiés, les expressions artistiques, on peut ne pas avoir envie de dire qu'on fait de la danse arménienne.
Je propose un petit groupe sur ça au café, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup.